Ils sont revenus. Diego Arabal, Philippe Nodi, présents chaque semaine. Je juste un petit point, hein, vous êtes des bénévoles tous les deux et ça fait des années que vous venez voilà, faire cette chronique littéraire.
Alors,
vous
c'est 13 ans.
13 ans. 13 ans.
13 ans qu'on est là. Bon, ça porte pas malheur, hein, 13 ans.
Non. Tant qu'on casse pas un miroir.
Tant qu'on casse pas un miroir, voilà. Bon, bonjour déjà,
bonjour,
Vercaz.
Bonjour les deux, voilà. Philippe.
Et vous avez une invitée en plateau. Et
tout à fait, ouais. Complètement. Et si la Terre nous adressait la parole pour nous signifier que nous ne serions plus capables de l'entendre? Si la Terre nous parlait pour nous dire qu'on pouvait la cultiver autrement? C'est justement la résolution prise par la personne que l'on reçoit aujourd'hui, et qui est maraîchère, mais pas que, dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour Clélia le gentilhomme.
Bonjour Philippe.
Bonjour Clélia.
Vous êtes l'auteur de l'ouvrage non encore publié, je le précise, Résolution, la Terre nous parle, solution pour une agriculture bienveillante. Quel a été votre objectif en écrivant cet ouvrage ?
Oui, merci. Alors l'objectif premier, c'était moi, de déposer déjà ce qui m'était arrivé, mon parcours. Donc il y a une première partie quand même qui parle intimement de ce que j'ai vécu et ce qui fait mon expérience, en fait, je pense. Et la deuxième intention qui est venue, c'est de faire le lien et d'amener la réconciliation entre le paysan et la terre, entre le jardinier et son bout de jardin.
Alors, vous avez une technique particulière. Hein. Vous allez là, vous cherchez à vous installer. Hein, on le précise donc actuellement comme agricultrice, donc en maraîchage bio. Je le précise oui. Donc à Cizos.
Oui, en agroforesterie.
En agroforesterie. Alors, voilà. Vous allez nous préciser après ce qu'est agroforesterie. On précise Cizos hein, parce qu'on a entendu sur toute la région, l'ancienne région Midi-Pyrénées, c'est la région de Castelnau-Magnouac. Ça parlera pas forcément. On va juste dire que c'est le pays de Toto Dupont, le capitaine du 15 de France. Et là, je pense que ça va parler à tous les auditeurs et toutes les auditrices.
Exactement.
Là, à mon avis, il n'y aura pas de souci en parlant effectivement de ça. Vous serez voisin avec lui ?
Oui, pas très loin. Oui.
Bon, eh bien, écoutez, on viendra vous voir pour avoir des autographes de
Exactement.
Toto Dupont que l'on salue. On salue son frère également qui est installé comme éleveur, effectivement, donc en port noir de Bigorre également oui. sur Castelnau-Magnouac. Vous nous parlez à l'instant d'agroforesterie. C'est
oui.
quoi ?
C'est l'association de l'arbre, alors ça peut être n'importe quel arbre, moi j'ai choisi l'arbre fruitier, et la culture ou l'élevage, alors moi j'ai choisi l'élevage et la culture, le maraîchage, voilà.
D'accord, alors vous m'avez parlé, quand on avait préparé cette émission, d'une technique particulière pour préparer le sol, en tant effectivement que maraîchère. Moi, je vous avais dit, bon, la terre est basse. Vous m'avez dit, oui, c'est vrai, la terre est basse, mais c'est pas moi qui vais la travailler.
Exactement.
Ah, je vais dire, bon, comment vous faites ? Vous m'avez dit, je vais laisser les poules travailler la terre.
Oui.
En la grattant et en l'amendant avant de planter vos légumes. Vous nous expliquez un peu cette technique ?
Exactement. Alors, ça démarre en automne, du coup, où je fais les amendements de fumure, de poules, de fumure de cheval. Donc, pour amener de la matière hein, à décomposer pour la vie du sol. Sur certaines parcelles, il y a aussi des engrais verts qui sont semés. Et après, il y a...
Alors, engrais verts précisés, parce que vous savez ce que c'est.
Vert,
je ne suis pas persuadé
oui.
que tout le monde sache ce que c'est.
C'est une association de plantes plutôt résistantes à l'hiver. On va peut-être mettre de la vesse, de l'avoine, qui va servir de matière végétale vivante, verte. Et j'ai amené du fumier et du crottin de cheval.
Alors,
qui est une matière morte.
Vous le semez, comment vous faites ?
Oui, c'est ça, exactement. C'est un semis à la volée qui est déposé au sol. Il y a un petit compactage par un piétinement. Ça peut être le passage des poules qui vont commencer à me gratter un peu les graines. Et ça peut être le suivi de l'étalage avec un rouleau. On va déposer, je vais passer un rouleau.
Pour écraser les fumiers dans la terre.
Exactement,
c'est ça.
Pour plaquer les graines au sol.
Un peu comme on fait quand on plante une pelouse, quand on sème une pelouse.
Oui, exactement, voilà, c'est ça. Et du coup, la période d'hiver, donc, c'est la couverture végétale par cet engrais vert qui pousse. Et on ne l'amène pas à maturité, on l'amène à la formation du grain, mais pas mature. Voilà, l'idéal. Et ensuite, on va l'aplatir, le faucher. J'ai plusieurs selon la
quelle est la meilleure
la culture
technique
présente.
Ça
dépend l'itinéraire qui est choisi derrière.
C'est-à-dire
si je vais y faire une carotte, je vais avoir besoin de le détruire un petit peu plus tôt pour laisser ma bâche en place, parce qu'après l'étape suivante c'est de déposer une bâche au sol. La destruction par la bâche, par la présence de la bâche, va amener à ramener la terre à nu, un peu quand on enlève la piscine en fin d'été. Vous voyez, on a vraiment le sol à nu, mais il peut être un peu compacté. Donc là, j'enlève mes bâches, je laisse le temps à la faune, donc aux vers de terre, à tous les insectes qui ont été présents tout l'hiver, de partir, de s'échapper. Et le lendemain, je fais rentrer dans le parc les poules. Voilà. Et c'est à ce moment-là que les poules vont intervenir et vont faire un petit grattage de surface. À partir de là, j'ai une terre préparée où je vais pouvoir faire mon semis. Le fait de ne pas passer avec des machines, de ne pas piétiner trop souvent la parcelle, du coup, on n'a pas de compactage. Une poule, ça pèse un peu moins lourd qu'un tracteur. Donc, on a
compactage, quelles sont les conséquences? Parce que, bon, on a des auditeurs et des auditrices, certainement, qui vivent en appartement.
Oui.
Qui n'ont pas travaillé de jardin. Donc, compactage, bon, c'est un peu...
Oui, alors, dans la vie du sol, on a plusieurs types de bactéries. Et celles qui sont en surface, elles sont aérobies, elles ont besoin d'air. Et donc, si on vient les écraser, tasser le sol, on va comprimer, donc un peu comme si on resserrait une éponge, et donc supprimer l'air. Donc, tuer ces bactéries qui ont besoin de cet air pour vivre. Et c'est ces bactéries-là qui sont actives à la décomposition du sol et qui vont permettre la décomposition de la matière organique, exactement, et qui vont permettre que ça soit disponible pour la culture suivante.
Ça veut
donc
dire
on
que
a besoin que ces bactéries restent vivantes.
Pour bien comprendre, c'est-à-dire que quand on met une matière organique au sol, oui. On pourrait penser que quand on met du fumier, il est immédiatement disponible pour les racines, ce n'est pas le cas.
Non. Il y a tout un cycle de vie qui nous précède. Il y a tout un cycle qui met en place et qui rend disponibles les solutions solubles pour les plantes que vous allez cultiver, qui ont besoin de ces nutriments pour grandir et pour vous les rendre après dans vos assiettes.
Qu'est-ce que vous appelez par soluble quand vous parlez de soluble?
Dissous dans l'eau, soluble.
D'accord.
Ça va être, les plantes se nourrissent par les solutions aussi, par les racines qui sont disponibles. Donc associées à l'eau qu'elles vont prendre au sol.
Donc voilà, donc, en fait dans l'eau vont se dissoudre ces éléments, le phosphore,
exactement.
L'azote.
Oui, pas que ça.
L'acide phosphorique.
Il y a du calcium.
Calcium.
Tout ce qu'on a besoin dans les aliments qu'on vient chercher nous comme matière pour nous nourrir, est transformé par les végétaux que vous avez cultivés. Voilà. Et c'est grâce à eux qu'on peut les ingérer. Voilà. Et si possible de bonne qualité.
Alors, on précise, le titre de votre ouvrage, La Terre nous parle, solution pour une agriculture bienveillante. Qu'est-ce que vous appelez une agriculture bienveillante?
Alors, tout le livre, il a d'abord été construit donc, sur ce partage de mon expérience via mes outils personnels, on va dire les outils de développement personnel que j'ai eu sur mon parcours qui m'ont aidé à traverser les épreuves de ma vie et le partage de ma VAE, donc projet
VAE,
validation d'acquis d'expérience qui m'a permis d'obtenir le diplôme agricole. Parce que j'ai monté déjà une première ferme avec mon ex-mari et donc j'ai, pour obtenir ce diplôme, écrit un livre qui explique comment on construit une ferme de A à Z.
Alors, le diplôme, c'est le BPREA, le brevet professionnel donc d'exploitante agricole.
Exactement, partie maraîchage, voilà, où j'associais déjà les poules à l'époque.
D'accord.
Et donc, une fois la lecture et l'observation bienveillante de ces deux parties de moi, donc ma partie personnelle, qui je suis et ma terre et comment je la cultive, j'invite les personnes qui liront mon livre et qui après souhaiteront un accompagnement à faire cette réconciliation entre leur sol et leurs objectifs à eux, en fait. L'idée, c'est d'aller vraiment vers... je m'appuie principalement sur la communication non violente de Marshall Rosenberg, qui est un ouvrage qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». C'est un Américain voilà, qui a démarré ce processus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui parle de communication bienveillante ou communication non violente. Exactement. Moi, je pars sur retransformer ça en agriculture bienveillante. Donc, c'est l'objectif, c'est d'abord de s'observer, d'identifier ses sentiments, ses émotions, quels besoins se cachent derrière ces sentiments et ces émotions, et qu'est-ce qu'elles demandent je peux me faire à moi ou aux autres en ayant pris conscience de ce que je viens d'observer. Donc l'idée, ça, c'est d'humain à humain, ce qui est proposé par Marshall Rosenberg. Et moi, je prends cet outil-là avec, en parallèle, l'outil de Gérard Dusserf, qui parle des plantes bio-indicatrices. Et donc, c'est un monsieur qui a traduit en fait le langage des plantes, qui est botaniste, qui a fait ses ouvrages.
Qu'est-ce que vous appelez plantes bio-indicatrices pour qu'on comprenne
voilà,
un peu comment
décrit. C'est exactement ce que je dis, c'est l'histoire de les plantes nous parlent. C'est-à-dire que chaque plante a un biotope primaire et va pousser dans un endroit qui lui correspond, qui avec une certaine chaleur, avec une certaine luminosité, avec une certaine disponibilité de minéraux dans le sol. C'est ça qui va lui donner envie de vivre ici, de lever sa dormance et de naître à ce moment-là. Et donc ça a été traduit par Gérard Dusserf dans ses encyclopédies des plantes bio-indicatrices et grâce à son fascicule aussi des conditions de levée de dormance des plantes bio-indicatrices. Du coup, je vais faire sa formation au mois de mai et j'ai déjà quand même pas mal bouquiné ses ouvrages et j'associe ces connaissances de plantes bio-indicatrices avec les connaissances de communication non-violente pour faire cette réconciliation entre la personne, pourquoi elle vient jardiner, pourquoi elle vient aujourd'hui se dire « là, je veux semer des carottes ici », quel sentiment elle a quand elle va faire ça, quel besoin elle a, est-ce qu'elle a vraiment besoin de carottes ou est-ce que c'est juste qu'elle veut un sol très propre à nu. Donc il y a par ce fascicule que je permets et que je laisse les gens compléter, j'obtiens ces informations sur ce qu'elles attendent vraiment et avec cette lecture de ce qu'elles veulent et les plantes bio-indicatrices, la lecture que moi je fais en passant sur leur terre en disant bah voilà, moi j'ai vu telle et telle plante, voilà ce que ça me dit, voilà ce que votre sol me dit, je vous propose une stratégie adaptée, je vous propose de faire une demande à votre terre et de lui demander si, en fait, elle est d'accord de recevoir des carottes et de faire pousser vos carottes. Voilà. Et pour qu'il, l'objectif, c'est qu'il y ait un bon résultat dans les deux sens. C'est-à-dire que le sol soit cultivé durablement, respecté, et qu'en même temps, la personne soit satisfaite et soit contente de son potager.
Voilà. Ça veut dire que là, bon, vous allez avoir en fait deux parties dans votre activité.
Complètement. Hein,
vous allez avoir une partie où vous allez être maraîchère bio, donc voilà. Légumes que vous allez vendre à la ferme, sur les marchés,
oui.
Peut-être livrés dans la grande distribution, ça...
Non, pas tout à fait.
Pas tout à fait, d'accord.
plutôt calmement, plutôt au restaurant de,
plutôt restaurant.
Des Dupont.
D'accord, ok. Plutôt au restaurant donc, des Dupont, d'accord, qui est, on le rappelle, hein, sur Castelnau, Magnouac.
Oui.
Et vous aurez une deuxième partie où, en fait, vous allez faire une partie formation. Alors, ça peut être à la fois pour des agriculteurs, mais aussi des particuliers.
Alors, c'est plutôt pour des particuliers.
Plutôt voilà. Pour des particuliers.
La Chambre d'agriculture fait très bien son job pour les professionnels. Donc, moi, je me tourne vers les particuliers. Et pour que, justement, dans cette période où il y a un peu l'élan de retourner faire du jardin, mais où on n'a pas les bases et où on n'est pas capable de trouver facilement de l'information sur Internet, qu'on entend de tout et de rien, faut couvrir, faut pas couvrir, faut ceci, faut cela... Je clarifie en fait ça en disant en fait toutes les stratégies qui sont proposées sur les réseaux, dans les livres, etc. sont des stratégies qui appartiennent à la personne qui la communique en fait. Et l'idée c'est d'arrêter de faire du copier-coller, c'est de sortir de cette posture et de dire qu'est-ce qui les a amenés eux à choisir cette stratégie et est-ce qu'elle est adaptée pour moi ? Pas forcément. Voilà. Ce que j'aime bien dire c'est qu'on a tous un besoin universel, c'est la paix. Et en fait, on n'a pas tous la même stratégie pour aller vers la paix. Il y en a qui choisissent de prendre les armes, et il y en a qui choisissent de renoncer. Il y en a qui choisissent de prier pour rester en paix avec eux-mêmes, et il y en a qui choisissent de se battre parce que, voilà, c'est une autre stratégie. Mais on a tous le même besoin, on veut être en paix, en fait. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est d'aller vers la personne en disant, qu'est-ce que vous avez besoin ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ici ? Et moi, je vais vous traduire ce que la Terre vous dit, et avec ça, on va trouver le moyen de s'entendre.
Alors, je précise pour les personnes qui auraient pris l'émission en cours de marche que l'on est avec Clélia Le Gentilhomme dans l'émission littéraire Un jour, un livre, un auteur. On la reçoit pour son livre Résolution, La Terre nous parle, solution pour une agriculture bienveillante. Là, vous nous parliez à l'instant, donc effectivement, des prestations que vous pouvez faire avec les gens, analyser qui ils sont pour savoir effectivement par rapport à la terre donc qu'ils possèdent, ce qu'ils pourront faire. Ou pas.
Oui, exactement.
Ou pas.
Qu'est-ce qu'il faudra mettre en place
voilà,
pour finir... Pour,
sans forcément voilà. Peut-être détruire la Terre non plus.
Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place durablement pour que la Terre puisse nous offrir ce qu'on lui demande.
Voilà, ce que vous lui demandez. Vous ferez ça uniquement sur les Hautes-Pyrénées, parce que je vous pose la question, parce qu'on est sur toute la région, l'ancienne région Midi-Pyrénées, hein, donc Ariège, Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, bien entendu, Lot, Aveyron, etc.
Oui,
on est écouté également sur jusqu'à Pau, donc Pyrénées-Atlantiques. Ça fait quand même une zone importante. Vous vous limiterez aux Hautes-Pyrénées ou est-ce que les personnes qui seraient intéressées par ce projet, s'ils sont d'autres départements, par exemple quelqu'un qui est dans le nord du Gers, qui serait pas très loin de la frontière avec le Lot-et-Garonne, pourraient faire appel à vous ?
Ce que je vais faire, c'est que j'ai aussi ma ferme, moi, à m'occuper, donc avec une certaine présence. J'envisage d'embaucher quelqu'un pour ces moments de présence où je serai en déplacement. Et le secteur géographique, je souhaite rester local parce qu'en fait, les plantes que
quand
je connais...
Quand vous dites local, c'est Hautes-Pyrénées. C'est comme vous serez sur
voilà,
le canton de Castelmanouac.
Plutôt Hautes-Pyrénées.
Plutôt Hautes-Pyrénées.
En fait, un climat que je connais. Voilà. Et donc, je préfère diffuser mon fonctionnement et de le donner à des collègues qui sont sur d'autres territoires et leur dire, voilà, ça fonctionne comme ça et tu peux le diffuser dans ton coin. Parce que l'idée, c'est que Ce que je connais historiquement, c'est la Vallée d'Or à Esch, et maintenant le Magnoac. Et je suis à Tournouse d'Arrée actuellement, donc je connais un peu plus largement les Hautes-Pyrénées. J'ai fait un peu, voilà, de long en large. Et donc, je connais ces plantes. Voilà, j'ai des facilités à reconnaître, à identifier ce qui se passe dans nos sols. Et j'ai suffisamment parcouru notre territoire des Hautes-Pyrénées pour avoir un regard et voir ce qui se fait à droite à gauche et me dire, bon, ok, il y a ce genre de fonctionnement dans les potagers, il y a d'autres fonctionnements ailleurs. Et je pense avoir fait aujourd'hui, ça fait 11 ans maintenant que je cultive la terre, assez de d'environnements différents, d'espaces différents et de façons de cultiver différentes pour la traduire, la comprendre en fait. Voilà.
Et alors,
parce
question,
que ça ne fonctionne pas...
parce que les Hautes-Pyrénées, on est sur un département qui est un département montagneux, donc on va trouver des jardins à 300 mètres d'altitude, puis on va en trouver à 700 mètres, 800 mètres, 1200 mètres d'altitude. Oui. Quand vous parlez de climat dans les Hautes-Pyrénées, est-ce qu'il faut parler de climat au singulier ou de climat au pluriel?
Oui, au pluriel. Oui.
Voilà, du fait que, je suppose, déjà les terres aussi sont différentes, mais je parle uniquement là du climat pour l'instant, des températures, qui vont certainement influencer peut-être ce qu'on va pouvoir faire ou pas, en fonction effectivement de l'altitude à laquelle on va se situer. Si on était par exemple sur le territoire de la Beauce, où on serait à peu près à 50 mètres près, 100 mètres près, à peu près à la même altitude, mais ici on voit qu'on est des altitudes très différentes. Quoi. Oui. On commence à 300 mètres et puis on termine à
2800.
Des villages. Voilà, on termine à 3000, mais on a des villages dans lesquels on a effectivement des jardins. Je pense par exemple au petit village d'Ence dans la Vallée d'Or, qui est au-dessus de Saint-Lary. Vous avez tout un tas qui donne très bien au demeurant, à 1200 mètres d'altitude.
Oui, exactement.
Où à l'époque on faisait la pomme de terre d'Ence.
Exactement. Et du coup, on n'aura pas la même stratégie. Quand on soit en montagne, en altitude, on n'aura pas la même stratégie, on n'aura pas les mêmes. Peut-être on couvrira beaucoup moins le sol parce qu'on aura beaucoup plus d'eau, moins d'exposition, moins de soleil. Donc on a besoin que la terre se réchauffe plus vite. Donc effectivement, le système de paillage n'est pas adapté. Par contre, à Cizos, dans le Magnoac ou à Trey-sur-Baïse, c'est complètement adapté de couvrir les sols justement pour garder cette humidité, que les argiles ne se craquellent pas, ne se dessèchent pas, et que le.
D'accord. Moi, je pensais que les cartons, on aurait pu les mettre, par exemple, les cartons comme l'hiver pour faire remonter les vers de terre, je pensais qu'on aurait pu les mettre de façon je dirais unilatérale, que ça soit à Cizos, donc à 300 mètres d'altitude, ou à Ince, à 1200 mètres d'altitude.
C'est pas ce que je conseille, ça dépend, voilà. C'est vraiment ce que je propose, c'est vraiment de s'adapter au lieu, à la personne. Et le lieu, c'est vraiment, c'est pas le village, quoi. C'est son jardin, comment il est exposé, quelle pente il a, qu'est-ce que les plantes nous disent de est-ce que c'est un sol qui est déjà trop régulièrement inondé, est-ce que c'est un sol qui est compacté, est-ce que c'est un sol qui prend trop souvent le vent, etc. Et ça, les plantes nous le disent, nous traduisent l'historique du terrain. Donc j'ai pas besoin de connaître le lieu depuis quelques mois pour faire un diagnostic et pour dire là en fait voilà ce qui se passe.
En fait,
quelle stratégie on peut mettre en place pour réconcilier.
En fait, Lilia Le Gentilhomme, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les plantes nous parlent.
Oui.
Puis qu'on a oublié de savoir les écouter.
Voilà, qu'on a oublié de s'arrêter, d'être en présence, de se poser, de les regarder. Et puis de prendre les ouvrages de nos botanistes pour faire le lien, en fait, pour faire la traduction de ça. Parce que je ne me prétends pas botaniste, hein. Je suis jardinière, je suis maraîchère, je suis cuisinière aussi, et je suis femme nourricière, en fait. Et je traduis, grâce aux ouvrages de Gérard Dusserf, ce que les plantes ont à nous dire, et mon expérience.
Vous êtes homme nourricier, je crois, c'est vous qui faites la cuisine, vous m'aviez dit,
c'est moi.
Rabal. Et vous cultivez un jardin aussi, ou un petit potager?
Bon, on a un tout petit jardin, et puis je ne suis pas suffisamment longtemps dans mon chez-moi à moi, avec le jardin. Je suis pas assez longtemps sur place pour cultiver un petit jardin, puis il est minuscule.
Voilà. Et bien ça, ce n'est pas une excuse. C'est une stratégie. C'est-à-dire que c'est un besoin qu'il a, c'est qu'il n'est pas tout le temps présent, et donc... À ça, je peux proposer un jardin qui serait du coup pas forcément un potager annuel où il y a besoin de beaucoup de présence, mais peut-être un petit jardin forêt comestible, voilà, où il y a une présence automnale ou printanière un peu pour les récoltes.
On fera une opération spéciale d'Ego à Rabal.
Avec grand plaisir.
Philippe Subercase, une opération spéciale d'Ego à Rabal, le jardin d'hiver. Vous savez, un peu sur le thème de la musique de... Ah, c'était...
Un jardin d'hiver. Non.
Voilà, oui. Tout à fait. Je vois que
j'ai, pas le, j'ai pas le...
Henri Salvador. Non,
Salvador. Henri Salvador.
Henri Salvador, voilà. Henri Salvador, donc « Mon jardin d'hiver ». Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans le livre que vous m'avez transmis, alors je le répète hein, pour les auditeurs et les auditrices, il est pas encore effectivement édité. Vous
on
mettez
cherche
des photos.
Une maison d'édition.
Vous cherchez une maison d'édition, et donc oui. Ça effectivement, on passe le message. Vous mettez des photos de ce que vous avez fait avant et après pour montrer l'évolution du terrain. Oui. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Vous montrez des comparatifs de comment le terrain effectivement évolue. Comment vous parvenez à le transformer, mais en le respectant, c'est-à-dire en ne le bousculant pas.
Exactement.
En lui demandant ce qu'il peut vous donner et non pas ce qu'il ne peut pas vous donner.
Exactement.
Vous montrez des récoltes hein, avec des légumes qui ont l'air vraiment, vraiment savoureux. Alors on est en France, on aime faire la cuisine, hein, donc... Il est clair que ça donne vraiment envie de manger. Enfin, je l'ai trouvé vraiment très, très intéressant, ce livre. Et puis, il y a effectivement des photos de poules que l'on voit. Alors, moi, c'est vrai que sur le moment, quand je l'ai vu, cette photo de poules que vous avez dans le jardin, on se dit, mais qu'est-ce qu'elles font là?
On me dit qu'est-ce souvent que je fais les choses à l'envers.
Mon grand-père, si les poules sortaient, alors là, ça m'est arrivé quelques fois chez mon grand-père maternel, je me faisais engueuler parce qu'elles partaient et elles allaient manger donc, dans le potager. C'était le grand jeu avec mon frère, ça.
Il fallait
leur courir après, ouais. Et ouais, c'était, pour nous, c'était rigolo. Pour mon grand-père, ça l'était un peu moins, ça. Mais et bon, voilà. Et on voit à un moment donné l'intérêt, effectivement. C'est-à-dire que les poules, c'est pas des ennemis du jardin.
Il y a plein d'autres animaux qui ne sont pas des ennemis du jardin, mais qu'on considère comme prédateurs ou en tout cas comme gênants.
Et
moi, je parle même du renard. C'est-à-dire que je mets les poules en liberté et je lâche le renard au milieu. Si j'ose ça.
Ah, c'est intéressant ça.
je plaisante, mais qu'à moitié.
Qu'à moitié.
Qu'à moitié. En fait, je fais l'inverse. Je clôture les légumes. Je me suis aperçue qu'ils n'avaient pas envie de s'échapper, qu'ils avaient beaucoup plus de difficultés à passer les clôtures, malgré que je laisse pas mal de plantes monter en graines. Donc, je clôture les parcs jardins et j'y fais rentrer les poules quand j'ai besoin. Voilà. Alors, les poules ont toujours leur parc et leur habitat, leur poulailler fixe, hein, qui sera, je l'espère, à Cisos, dans l'ancienne porcherie que je vais réhabiliter, traditionnelle, en pisé, très jolie. Et un joli parc arboré avec des arbres fruitiers qui donnent des fruits au sol, comme ça permet de nourrir les poules aussi pour compléter l'alimentation et les céréales que je leur donne. Et donc elles sont à résidence, ici c'est leur lieu de vie et c'est ok. Et après, elles ont la possibilité, certains matins, quand j'ai besoin d'elles, donc des pondoirs mobiles, des petits poulaillers pour la journée mobile que je vais rentrer dans mes parcs jardins, donc là, à l'étape où j'ai enlevé les bâches la veille, où j'ai laissé la terre et les vers de terre redescendre, et où j'ai besoin que les poules viennent travailler le sol. Donc à ce moment-là, le matin, allez les filles, je secoue le seau de grain, elles me suivent, toutes celles qui ont bien envie. J'envisage d'en avoir jusqu'à 200, je ne pense pas que j'ai besoin de mettre 200 dans mes jardins à chaque fois. Et donc, j'emmène les filles pour la journée se gratter la terre voilà, dans le jardin. Et
est-ce que ce n'est pas dangereux? C'est une question. Hein, on connaît l'utilité des vers de terre au jardin.
Oui.
Si à un moment donné, les poules viennent, elles vont enlever les vers de terre qui aèrent la terre. Est-ce que ce n'est pas contre-productif?
Alors, ce que je vous disais, c'est voilà, je laisse le temps, après le débâchage, surtout à cette faune précieuse, de redescendre et d'aller se cacher.
Avant de mettre les
poules,
d'accord.
Oui, bien sûr. Oui. Il y a au moins une journée, peut-être plus, selon la disponibilité, le temps de travail disponible.
C'est-à-dire qu'en fait, vous jouez un seul coup aux poules.
Voilà, c'est ici, regardez, ça va être très chouette.
Vous jouez un sale coup aux poules, c'est pas bien ça. Hein.
Mais donc elles vont se nourrir avec d'autres, avec des insectes, etc.
Oui, il y en a quand même, elles vont aller, alors elles vont casser la chaîne de la limace, elles vont aller manger les œufs de limace par exemple, qui eux ne vont pas disparaître là dans la nuit. Les limaces, il y en a quelques-unes qui vont s'échapper. Elles sont pas très friandes des limaces, c'est aussi pour ça que j'ai des canards.
Et, les canards sont friands des...
Des limaces, plus que les poules, oui. Les poules mangeront les œufs, casseront la chaîne de reproduction de la limace, mais ne sont pas très friandes des limaces, non. Ça colle un peu trop au bec.
D'accord. Ça c'est... Bon, Clélia le gentilhomme, résolution, la terre nous parle, solution pour une agriculture bienveillante, c'est le livre que vous avez écrit, donc vous êtes en recherche, on l'a dit, d'un éditeur ou d'une éditrice, parce qu'il y a aussi des femmes qui éditent, il n'y a pas que des hommes. Donc on lance effectivement... cet appel, vous allez vous installer, donc on le rappelle, comme maraîchère bio et en agroforesterie.
Oui,
on invite les personnes qui prennent l'émission maintenant à réécouter donc en podcast l'émission dès le début pour effectivement écouter l'intérêt de l'agroforesterie sur son exploitation agricole. Donc à Cizos, on explique, pas très loin des frères Dupont, notamment on pense à Toto Dupont, donc le capitaine du 15 de France, à qui on souhaite écoutez, un bon parcours, puisqu'il y aura le tournoi Destination qui va démarrer très bientôt. On attaquera l'Irlande. Et donc, on souhaite effectivement à ce que l'équipe de France gagne ça. Et nous, on vous souhaite aussi, bon vent.
Un
beau parcours, de mettre en place votre projet qui est vraiment passionnant. Puis je pense qu'on va vous réinviter pour savoir un peu où vous en serez, pour suivre un peu votre parcours, pour nous parler un peu de ce que vous aurez mis en place, des personnes que vous suivez. On a parlé notamment des particuliers. Donc je lance un appel à Philippe Subercase, s'il a un potager, pour effectivement travailler son potager, comme le disait si bien Voltaire. Et cultiver ses légumes. Voilà, je ne sais pas s'il nous entend, mais s'il nous entend, écoutez.
Bien sûr que je vous entends.
Ah, vous êtes là, Philippe Subercase.
Non, je cherchais mon potager.
Merci beaucoup.
Je cherchais votre potager.
En un seul mot, parce qu'il y a aussi les potes âgés.
Ouais,
mais là, j'en ai deux devant moi.
Je me rappelle un jour, Philippe Subercase, vous dites ça en plaisantant, mais j'avais, quand j'étais tout jeune, j'avais loué un appartement, et en arrivant dans l'appartement, on avait eu la surprise de découvrir de la terre. Et en fait, il y avait un petit endroit où le précédent locataire avait amené de la terre pour cultiver un jardin à l'intérieur de l'appartement. Il s'était pas rendu compte, de la personne qui possédait l'appartement, qu'il avait démonté une partie des portes pour pouvoir faire du feu dans la cheminée, se chauffer. Voilà, ça me rappelle ça, ce que vous dites, voyez, c'est pour terminer sur une note un peu humoristique. Merci beaucoup, en tous les cas, Clélia le gentilhomme, de nous avoir accompagnés. Résolution, la terre nous parle. Solution pour une agriculture bienveillante, livre qui cherche éditeur ou éditrice. Voilà ce qu'on pouvait dire, Philippe Subercase, aujourd'hui.
Merci beaucoup. Et puis, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Oui, tout à fait. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir. À la semaine prochaine.